émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Poirier, qui est l'animateur de Culture Contact, une association de tourisme équitable et solidaire qui a sa résidence à Gignac. Bonjour. Alors, bonjour Alexandre. Depuis combien de temps existe Culture Contact ?
Eh bien, depuis avril 2005. Donc, on va arriver petit à petit vers la 15e année d'exercice. Hein, donc, c'est une association de tourisme équitable et solidaire qui propose des voyages d'immersion au sein des populations locales uniquement en Amérique du Sud, donc en Colombie, en Équateur, au Pérou, en Bolivie et au Chili, et pour des dates avec 6 voyageurs maximum.
Alors, le tourisme équitable et solidaire a des principes bien établis, et d'ailleurs, Culture Contact est membre de l'ATES.
Alors, Culture Contact est membre de l'ATES, donc l'Association pour le tourisme équitable et solidaire, qui a été créée en 2006. Non seulement nous sommes membres, mais nous sommes labellisés ATES. Hein, donc il y a, tout le monde connaît le label AB pour les produits bio, et pour les voyages qui sont équitables, solidaires, il y a le label ATES. Et donc depuis décembre 2014, nous sommes labellisés ATES. C'est un processus qui a lieu tous les 3 ans. Donc l'année dernière, on a obtenu de nouveau pour 3 ans donc notre label ATES. Alors sans trop rentrer dans les détails, il y a 54 critères. Il y a 54 critères doivent être validés. Hein. Par exemple, la taille des groupes. Voilà, donc pour faire du tourisme équitable et solidaire, il faut que la taille des groupes soit de 12 maximum. Donc, avec nos six voyageurs, a fortiori, Culture Contact a validé ce critère. L'implication des populations locales. Donc là, effectivement, il n'y a aucune contestation possible. Il faut savoir qu'on est présent 2 mois par an sur place, on travaille avec des projets endogènes. Ce sont les projets des populations locales, donc l'implication est véritablement maximale. Ce type de principe, après, les notions de répartition des bénéfices, évidemment.
Voilà, ça c'est très important à dire.
Tout à fait. Hein, donc je dirais qu'il y a la répartition des bénéfices, mais s'agissant de projets endogènes, donc de projets des populations locales, on travaille sur la base de leurs projets à leur prix. Hein, donc ça va un petit peu de soi, s'agissant de projets colombiens, péruviens, etc. Donc c'est un petit peu ça, c'est ce que recherchent les voyageurs, c'est un voyage de rencontre, d'échange, une immersion au sein de la population locale. On voit la réalité du pays, on ne fait pas que passer, on va au-delà du paysage ou de voyage où on prend des photos. On ne s'interdit pas d'aller voir des beaux endroits, on va voir le Machu Picchu au Pérou par exemple, évidemment. Mais le lendemain, on est en train d'éplucher les patates avec Mamalous dans la cuisine. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Avec un peu d'argent, tout le monde peut aller voir le Machu Picchu, vivre la vie péruvienne au Pérou avec des Péruviens. Ça n'a pas de prix en fait, quoi. Donc c'est un mélange des deux, ça nous permet de faire une véritable rencontre-échange. Donc c'est ce que recherche le voyageur donc en France et en Amérique du Sud, que les personnes qui travaillent pour accueillir les voyageurs aient les dividendes de l'activité touristique.
Voilà, c'est à 50% sur le prix du voyage qui est réservé aux prestations et aux projets locaux.
Tout à fait. Voilà, c'est pour un voyage de 3 000 euros, en moyenne, il y a 1 500 euros qui va rester sur place, effectivement. Après, il y a 20% pour le fonctionnement de l'association. On n'a aucune subvention. Voilà. Et donc, il y a 20% du prix payé qui finance. Et puis, 30%, c'est l'aérien, hein, malheureusement.
Le voyage.
Et oui, il faut aller depuis la France jusqu'en Amérique du Sud.
Alors, vous disiez donc 6 voyageurs maximum, un rythme propice à la rencontre. Le voyage dure combien de jours ?
Alors, c'est minimum 14 jours. Hein. Il y a même des personnes qui partent pour 28 jours, voire plus. D'une manière générale, il faut, s'agissant d'une destination long courrier, donc concrètement, vous allez faire 20 000 km aller-retour en avion, Il est de plus en plus inenvisageable d'aller passer 4-5 jours de vacances, franchement, même une semaine, hein, en Amérique du Sud. C'est au niveau de l'éco-bilan, enfin, c'est contestable, hein, tout le monde le comprend. Donc si vous partez loin, partez longtemps. Alors on le fait minimum, effectivement, il y a 2 semaines de voyage dans chaque pays, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent prendre que 2 semaines de vacances, hein, tout simplement, ou qui n'ont pas le budget pour 3 semaines, c'est un petit peu plus cher. Voilà, vraiment, vraiment un conseil, partez longtemps. Vous partez 2 semaines avec Culture Contact, mais on décale vos billets d'avion, c'est très souple. Et vous restez plus longtemps sur place si vous le pouvez, quoi.
Donc les habitants sont prêts à recevoir et à partager avec le voyageur tout leur savoir-faire.
Tout à fait. Alors, tout leur savoir-faire, pas forcément. On a tous une partie privée chez nous. On n'a pas envie forcément de divulguer. Hein. Il y a certaines choses que l'on ne fait pas. Ils sont prêts à... Ils ont comme objectif, effectivement, de montrer qui ils sont et de partager avec les gens. Voilà, il y a certaines zones, certains cultes où l'on ne va pas parce que c'est la décision de la communauté. Mais effectivement, c'est la vie locale. En Colombie, par exemple, on va pêcher le jaiba, initiation à la cumbia, on va aller se baigner avec les habitants, ce genre de choses. On va étreindre les chairs, pêcher avec eux, enfin, vous voyez, des poissons au niveau des Caraïbes, etc. C'est la vie quotidienne. Au niveau d'Équateur, avec une communauté salasaka, on va aller voir le culte salasaka, on va faire une limpieza, c'est un nettoyage en faisant brûler des herbes odorantes, etc. Voilà, y a c'est la base de la culture locale, effectivement.
Alors, il faut quand même, quand on part, savoir qu'on ne va pas être tout à fait dans le confort européen.
Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un mal au dos, qu'il y a des problèmes d'hygiène ou quoi que ce soit. Hein. Mais il y a effectivement... Alors, c'est toujours des chambres de deux, à part une nuit en Colombie au niveau d'un hamaquero, l'endroit où on suspend des hamacs. Ils ont toujours des chambres de deux. Il y a des bons matelas, des draps, des couvertures, des moustiquaires tant qu'il faut, etc. Il y a toujours des douches, des toilettes, hein, voilà. Sauf en certains points très très précis. Mais sinon, il y a un minimum. Il faut savoir que Culture Contact, on fait du logement chez l'habitant. Hein. C'est vraiment notre spécificité, hein, avec la taille minime des groupes et cette zone géographique restreinte qu'est l'Amérique du Sud. C'est vraiment du logement chez l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez un voyage au Pérou, sur 2 semaines, vous avez 2 nuits d'hôtel. Hein. Donc ça veut dire qu'on va aller chez l'habitant, mais on peut, si vous voulez faire un voyage classique et dormir une nuit mal chez l'habitant et manger mal chez l'habitant, c'est une nuit. Nous, c'est 70-80% des logements, c'est un véritable voyage d'immersion. Donc on demande aux habitants d'avoir un matelas de qualité. Moi, j'aime pas avoir mal au dos quand je me réveille le matin, c'est le cas de personne. Qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène, c'est assez simple. Bien. Douche, toilette, etc. Quand il n'y a pas de douche, les douches, on les finance aussi de notre côté, hein, qui servent à la fois aux familles et aux voyageurs, avec une partie solidaire qui est ponctionnée sur 100 euros du prix payé par les voyageurs. Voilà, ce genre de choses. Il y a un confort quand même minimal, mais c'est absolument pas des hôtels avec la clim, 4 étoiles, etc. Hein? Quand on va en ville, on va en hôtel. Entre deux immersions dans nos communautés, on va en hôtel. C'est un hôtel de qualité, mais on cherche pas absolument pas le luxe ou quoi que ce soit. Hein,
voilà. Voilà, donc c'était bien à préciser. Alors Alexandre, vous avez pensé à une musique, de quoi s'agit-il?
Et j'ai pris le dernier album de Tashka, hein. Donc c'est plus les Saltimbanques mais c'est l'Empire de Papier. Donc c'est une chanson qui s'appelle Moonlib. Donc ça parle, Tashka en parlerait très bien d'ailleurs, il a fait un concert au CMEA à Montpellier donc cet été, où il a décrit cette chanson. En fait, sur une île, il y a eu un épisode de colonisation, et l'esprit, si j'ai bien compris, de cette culture, ce dieu qui s'appelle Moonlib, il est prêt à pardonner tout ce qui a été fait, c'est-à-dire en fait une acculturation et une colonisation des terres. Mais il n'est pas prêt à oublier.
Voilà, écoutons.
Mounibi peut pas oublier. Mounibi peut pas oublier. Mouni peut pardonner. M'y peut pas oublier. Récit de nos arbres anciens,
eux qui m'étendent sous les étoiles. Regardez fleurir au loin nos ombres sur la montagne, et nos tribus et nos villages, et nos bateaux et nos pêcheurs. Voyons débarquer sur nos plages 400 années de malheur. Mon Libye peut pas oublier. Mon Libye peut pas oublier. Mon Libye peut pardonner pour nous gagner avancer. Mi peut pas oublier.
Alors Alexandre, donc vous avez dit, bien sûr, ce sont des voyages en Amérique latine, Colombie, Équateur, Pérou,
Bolivie et Chili.
Et Chili. Donc, quelles sont les caractéristiques de tous ces voyages?
Alors,
en Colombie, par exemple.
Alors, je dirais que la base commune, avant de rentrer peut-être dans chaque destination, la base commune, c'est vraiment la rencontre, l'échange, la répartition des bénéfices, la réalité du pays. C'est un voyage qui va au-delà du voyage carte postale, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment la caractéristique commune. On ne fait que ça depuis le début.
Oui, donc c'est à la fois apprécier les paysages, apprécier la vie locale quotidienne, et puis connaître l'histoire du pays.
Tout à fait. Donc vous avez un guide professionnel qui est avec vous, et qui va être le passeur, en fait, vis-à-vis de l'histoire de son pays. Hein, c'est certain, l'histoire sociale, politique, l'histoire avec un grand H de son pays, mais qui va être le passeur aussi vis-à-vis des gens, des communautés qui vous accueillent. Hein. Donc, votre guide vous attend, c'est un guide francophone, vous n'avez pas besoin de parler espagnol, il vous attend à l'aéroport et vous le suivez pendant deux ou trois semaines. Alors au niveau des pays, la Colombie, on travaille au niveau des Caraïbes, hein, et puis on travaille également à l'extrême sud, donc la partie la plus au sud, c'est au sud du canal de Beagle, au sud d'Ushuaïa avec des communautés Yagan. Après on va en Amazonie, donc à l'extrême est, et on va au Galapagos aussi chez l'habitant. Hein, donc c'est toute cette partie sud-américaine, excepté la partie atlantique, Venezuela, donc Guyane, Brésil, Uruguay et Argentine, mais toute la partie hispanophone du Pacifique. Voilà. Donc il y a des paramètres dont il faut tenir compte. Voilà, c'est d'une part l'altitude. On travaille sur l'Amérique du Sud, sur la cordillère des Andes. Donc on monte parfois à plus de 4000 mètres. Donc il ne faut pas se tromper de voyage, il ne faut pas se tromper de saison aussi. Et la latitude aussi. Hein. On va au niveau de 54e parallèle.
Vous devez préparer les voyageurs pour qu'ils sachent comment se vêtir, comment se chausser.
Oui, tout à fait. Oui. Il ne s'agit pas d'arriver en tongs sur le Salar de Uyuni. Quoique ça nous est déjà arrivé une fois. Mais donc il faut aller vite, s'acheter des chaussures. En fait, il y a une réunion préparatoire qui est obligatoire d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Je crois qu'il faut le préciser.
Oui. Ah, non, tout à fait. Hein. Alors déjà, avant de s'inscrire, il faut avoir au moins une petite discussion téléphonique, hein, qu'on ne se trompe pas de voyage. C'est un voyage d'immersion. C'est aux voyageurs de s'adapter, l'inverse n'étant pas possible, tout simplement. C'est aux voyageurs de s'adapter, il faut arriver, il faut être ouvert d'esprit, etc. Il y a des personnes qui, quand on parle de faire un voyage chez l'habitant, ça ne les intéresse pas. Il ne faut surtout pas qu'ils viennent dans ce type de voyage, évidemment. Ça va être problématique pour eux, pour les autres voyageurs, et puis surtout pour les familles qui vont les accueillir, ou ils vont regarder, être méfiants, etc. Voilà. Donc en fait, il faut bien informer les gens, donc une réunion préparatoire obligatoire. Alors on fait voyager des gens de Belgique, de Suisse, même du Québec, hein, puisqu'on a des guides francophones, donc inutile de vous préciser qu'ils ne viennent pas pour une heure de réunion dans nos bureaux de Gignac, mais on fait une réunion préparatoire téléphonique, hein, c'est une multiconférence gratuite. Un jour, à une heure, etc.
Voilà. Alors, je vois qu'il y a tous les pays. Vous donnez une tonalité. Pour la Colombie, la tonalité, c'est la détente. Pour l'Équateur, c'est une dynamique. Et puis, au Pérou, eh bien, on a le choix.
Tout à fait. Ben oui, l'exemple du Pérou est intéressant, puisqu'on a un séjour de 15 jours et un autre de 19 jours qui est en tonalité détente. Si vous partez sur le 21 jours, la dernière semaine, en fait, on fait un trek. En fait, un trek avec un dénivelé de 1000 mètres. Donc là, effectivement, il ne faut pas se tromper de tonalité aussi. Quoi. Pas se tromper de saison.
Oui, ça dépend aussi de la forme physique de la personne qui fait le voyage.
Exactement. Mais en tonalité détente, là, au niveau des Caraïbes, en Colombie, ça ne pose aucun souci. Les deux premières semaines au Pérou non plus. Si des personnes peuvent faire de la randonnée, on peut leur proposer ça aussi.
Alors, comment vous apprécieriez justement en Bolivie, terre de contraste,
Oui, alors la Bolivie, le voyage en Bolivie a cette caractéristique, c'est que c'est deux voyages en un en fait. C'est-à-dire que les 2 premières semaines, on va être au niveau de la cordillère des Andes, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, Sucre, 2500 mètres, 4000 mètres Potosi, La Paz, 3700, 4000 mètres, et au milieu une grosse immersion au niveau des communautés Aymara, donc au niveau du Salar d'Uyuni. On va au niveau de communautés qui sont situées vraiment sur les extérieurs du Salar d'Uyuni, où très peu de monde va. Au niveau des voyageurs, il n'y a que les voyageurs de Culture Contact qui passent là. Donc on reste une petite semaine sur le Salar d'Uyuni, dans le monde Aymara. Là, vous êtes au niveau du froid, du sec, c'est un désert de sel. Il fait chaud la journée, dépend de la période, et il fait froid la nuit. Hein, puisque vous êtes en hémisphère sud par rapport à l'équateur, le Pérou qui est au nord. Vous êtes en Bolivie, au sud de la Bolivie, à la frontière chilienne. Donc il fait froid. Et après, vous allez en Amazonie. Donc, on va en Amazonie. C'est donc une zone où il y a 2-3 heures de pirogue pour y arriver. Et on se retrouve évidemment dans la chaleur, l'humidité, etc. Au niveau des communautés, des ethnies, sont les Mocétènes et Tsimane. Donc, c'est deux
Très
immersions
différente,
très
oui.
différentes, avec des cultures totalement différentes. C'est comme si vous alliez donc en Casamance, et puis avant, vous étiez allé au niveau du Tyrol. Hein, voilà, je raconte n'importe quoi, mais c'est une différence culturelle telle que celle-ci. La frontière culturelle en Amérique du Sud, elle est sur un axe est-ouest. Hein. Et puis les frontières politiques sur un axe sud-nord en fait. Donc c'est cette différence-là. Et au niveau de la Bolivie, on est sur la visite des villes aussi intéressantes qui sont Potosí, Sucre, La Paz.
Alors, c'est tout à fait tentant, en effet. Et le Chili, au-delà du bout du monde.
Eh bien, au-delà du bout du monde, on va donc au niveau de la région.
Jusqu'en Patagonie.
Au sud, hein, à l'extrême sud de la Patagonie, hein, c'est même au-delà de la Patagonie, c'est la région du Cap Horn en fait. Hein, donc on connaît le Cap Horn, hein, ce fameux phare où les Caporniens passent du Pacifique à l'Atlantique ou vice-versa. Là, on est à 120 km du phare, on est sur une île chilienne qui s'appelle Isla Navarino. On est avec des habitants, qui sont des communautés Yagan, qui sont les derniers habitants en fait, de l'hémisphère sud. Hein, derrière, on arrive sur l'Antarctique. On est au niveau des mers australes. Donc ça, c'est une communauté Yagan. Après, la communauté Mapuche, on remonte au nord de la Patagonie, cette fois, au niveau de l'archipel de Chiloé, de communautés au niveau du Pacifique, deux communautés au niveau des Andes, hein, c'est les Mapuche Pehuenche. Et on va également au niveau... Alors, de Valparaiso, hein, qui est plus classique, quoique extrêmement intéressante comme ville. Et puis au niveau du territoire Licanantay. Hein, Licanantay, ce qu'on appelle les Atacameños, qui vivent dans cette dénomination qui est d'ailleurs pas tout à fait exacte entre la réalité et l'imaginaire du désert d'Atacama. Voilà.
Ah oui, en effet, c'est tout à fait varié.
C'est toute l'Amérique du Sud. Depuis 15 ans, on est sur les routes. 2 mois par an, on est sur place. On regarde ce qui se passe, on fait des voyages tests, on fait un voyage d'études une année, un voyage test l'année suivante, et après tous les ans, on retourne, 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 retourne.
Oui, donc quand on part avec Culture Contact, on ne part pas dans l'inconnu puisque ça a été déjà balisé.
Balisé, balisé, rebalisé,
balisé.
rebalisé, et ceci depuis de très nombreuses années. Et vous allez vraiment chez des amis en fait, hein, et pas des amis Facebook. Hein. C'est vraiment des amis, on connaît bien les personnes sur place. On y retourne tous les ans, alors pas dans toutes les familles, ce serait impossible, mais ça veut dire que il y a un lien qui dépasse le cadre du commerce équitable, mais on dépasse complètement ce lien-là.
Voilà, et donc vous pouvez aussi suivre les fameux projets locaux.
Tout à fait, hein, qui sont des projets qui sont initiés et gérés par les populations locales,
Oui.
mais nous, on va sur place, on parle de ce qui a été fait. Et puis on valide ou non les projets à venir. Je n'ai pas le souvenir d'un projet qui n'ait pas été validé, hein. C'est vraiment des projets endogènes, des projets des locaux pour les locaux. Et nous, on est apporteurs financiers, hein, pour faire simple.
Voilà. Alors on va écouter à nouveau un peu de musique.
Ne me parlez pas de race, ni jamais d'être supérieur. N'invoquez pas le temps qui passe sur les mémoires et les douleurs. J'ai vu l'homme tomber si bas dans ses habits de fossoyeur, enterré au nom de sa loi, ce que nous avions de plus cher. Mon Libye peut pas oublier. Mon Libye peut pas oublier. Moi, m'y peut pas donner pour nous gagner avancer. M'y peut pas oublier.
Alors, Culture Contact va animer le prochain Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde, qui se passera non pas un mardi comme d'habitude, mais lundi 15 octobre, à l'espace Martin Luther King, de 12 à 14 heures. Alors, le sujet qui va être traité par Culture Contact, justement, c'est « Peuples indigènes du Chili en 2018 ». Lutte, défis et opportunités. Et vous avez invité pour cela votre partenaire.
Tout à fait. Donc, Juan Ignacio Marambio Morel, qui est directeur d'une fondation, Travolution, un mélange entre le voyage et la révolution. Donc, Travolution au Chili. Donc, c'est un Chilien qui connaît particulièrement bien les communautés indigènes, qui, avec sa fondation, essaye de les rendre visibles, d'organiser des congrès ou des conférences pour qu'ils puissent travailler ensemble. Il les aide à progresser, je dirais, dans le tourisme communautaire et également au niveau des revendications culturelles. Donc ça va être quelque chose de très intéressant. Donc je vous invite tous à venir. Donc lundi prochain à midi et on peut grignoter quelque chose ensemble après la conférence qui sera toujours
très conviviale. Oui, bien sûr, ça se termine toujours par un buffet convivial et dans lequel on déguste un café du commerce équitable.
D'accord.
Voilà. Alors justement, lutte, défi et opportunité, cela va nous amener à voir la difficulté aussi de ces peuples indigènes à faire respecter leurs droits.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que le Chili connaît une croissance économique depuis de nombreuses années. Donc, c'est un pays, pour ceux qui sont allés, le niveau de vie à Santiago du Chili n'est pas moins élevé que celui de Montpellier. Donc c'est un niveau de vie élevé. Cette croissance économique, elle a été rendue possible grâce à une politique extractiviste. Donc on connaît les mines de cuivre, par exemple, au nord du Chili. Donc on en parlait tout à l'heure. C'est le territoire Les Calantay, hein, la plus grosse mine de cuivre à ciel ouvert est chilienne. L'économie chilienne est d'ailleurs dépendante du prix du cuivre, hein. La chute d'Allende. Donc en fait, vous avez donc une politique extractiviste, alors on parle des minerais, notamment le cuivre au nord, la forêt, donc les arbres, ça c'est plutôt le territoire mapuche, hein, plutôt au centre du pays, et puis la pêche sur toutes les côtes pacifiques, y compris au niveau des communautés Yagan au sud d'Ushuaïa, etc. Des gens qui vivent sur des bateaux qui n'ont plus le droit de pêcher. Vous vous rendez compte de ça? Et donc en fait, donc la richesse de ce pays de 17 millions d'habitants, le Chili, c'est fait sur le dos des communautés indigènes. En fait, il s'agit tout bonnement d'une colonisation, hein. Donc les Incas, après les Espagnols, puis après bon, les multinationales, oui, etc. Donc une appropriation des terres, et la question, donc il n'y a pas que des choses négatives par rapport à la situation actuelle. Donc quand on regarde dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a eu toute une période, en fait, une période de démocratie, puis de dictature. On a essayé de leur voler leurs terres, il y a eu des luttes, etc. Aujourd'hui, on est retourné en démocratie. Les gens s'organisent, hein, donc il y a des réseaux locaux, il y a même des grands réseaux internationaux indigènes, et les Mapuches, notamment les Mapuches, mais pas que, hein. Les autres aussi, les Calantay Yagan par exemple, s'organisent pour revendiquer donc ces terres, pour revendiquer leur culture, pour revaloriser leur culture. Et là-dedans, il y a plusieurs choses, et notamment donc l'artisanat, il y a aussi l'accueil de voyageurs, donc c'est ce que fait Culture Contact. Donc on passe des partenariats avec eux sur leur prix. Hein, c'est du commerce équitable appliqué à une prestation touristique, c'est pour ça qu'on reparle de nouveau de tourisme équitable. Mais c'est intéressant de voir comment ces populations se sont adaptées par rapport au problème de terre, par rapport aux problèmes politiques, hein, Pinochet, avant Pinochet, après Pinochet, etc. Et aujourd'hui voilà, quelles sont les possibilités, quelles sont les opportunités.
Oui, et quelles sont leurs représentativités aussi par rapport...
Oui, tout à fait. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Ce n'est pas moi qui vais faire la conférence. C'est un Chilien, bien évidemment. Hein.
Oui.
Moi, je serai là bon, pour donner quelques infos, puis pour traduire si nécessaire. Mais c'est un Chilien qui va faire cette conférence sur cette situation-là. Alors, lui n'est pas ni Mapuche, ni Akanantai, ni Yagan. Ce n'est pas un indigène. Hein. Pas un autochtone, mais il a la même peau que moi, hein, ou il pourrait être montpelliérain, mais il connaît parfaitement les gens là-bas, il connaît parfaitement les communautés, il a une vision géopolitique.
Oui, et une vision globale par rapport à ce pays. Donc, nous vous invitons à venir nombreux lundi 15 octobre de 12 à 14 heures à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Et puis, je termine avec le calendrier de cette semaine. Alors, peut-être avant, oui, que Alexandre donne à nos auditeurs vos coordonnées. Où peut-on vous rencontrer? Quel est votre site?
Alors, le site est très simple, c'est culturecontact.org. Culturecontact.org, hein, comme ça se prononce, sans trait, sans tirer. Et donc, on a le site internet, hein, et puis vous pouvez appeler également au 04 67 59 75 76.
Merci. Alors, voici le calendrier de cette semaine. Il est assez riche, puisque dès le 11 octobre, c'est la table solidaire de solidarité d'Homme-Tom, une table hebdomadaire des repas créoles à volonté. Cela se passe 216 avenue de Louisville et vous réservez chaque fois, évidemment, assez longtemps à l'avance. Le jeudi 11 octobre, il faut réserver avant le mardi 9 octobre, 17h30, au 04 67 45 70 30. Vendredi 19 octobre, il faut réserver avant le mercredi 17. Mercredi 24 octobre, réservé avant le lundi 22, et mardi 30 octobre, réservé avant le vendredi 26. Alors je rappelle donc au 04 67 45 70 30, table solidaire hebdomadaire de solidarité d'Homme-Tom, des repas créoles à volonté. Et samedi 13, à l'espace du Pérou, à 13h30 aura lieu une manifestation, on remet ça pour le climat. C'est organisé par le collectif Citoyens Zéro Fossile, en partenariat avec Alternativa Montpellier, iBoycott, Oxfam et Greenpeace. Samedi 13 octobre à 15h, salon du Belvédère, à la terrasse du Corum, à Montpellier, aura lieu un débat Kanaky Nouvelle-Calédonie, quel futur ? Donc, une conférence débat avec Jean-Michel Sourisseau, socio-économiste du CIRAD, Pierre-Yves Lemeur, anthropologue de l'IRD, Ernest Demaine et Elvis Gourou, qui sont membres d'associations Kanak et néo-calédoniennes. Ils traiteront respectivement de la situation économique actuelle du pays, de l'approche historique des revendications, notamment foncières du peuple Kanak, et ce qu'il est aujourd'hui, un regard sur le développement futur du pays à partir de ce qu'on peut appeler la résilience des tribus. Tout cela est organisé par la section PCF de Montpellier avec les mouvements Kanak de Montpellier. Samedi 13 octobre également, à partir de 17h, c'est le 31e anniversaire de l'association de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, c'est la terrible histoire de Thomas Sankara. Un petit spectacle inventif et drôle qui raconte la grande histoire du Tché africain. Et cela se passe à l'espace Martin Luther King à partir de 17h. Donc, l'accueil. À 17h30, une prise de parole. À 18h, le spectacle. Et à 18h45, une conférence débat. La démocratie en Afrique, ça se termine à 20h par un verre de l'amitié et des échanges. Et tout cela est organisé par le comité Thomas Sankara. Également, samedi 13 et dimanche 14 octobre, à la maison familiale rurale Sainte-Victoire au Roussé-sur-Arc, dans les Bouches-du-Rhône, aura lieu une assemblée régionale du CCFD sur le thème « Construire ensemble le CCFD de demain ». Donc, il y aura le samedi 13, à partir de 14h, ce sera « Penser le développement » avec Pierre Daréville, député des Bouches-du-Rhône, Jérôme Sambucy, météorologue, Juliette Ségard, qui est chargée de mission Asie, à la commission, justement, du CCFD. Et puis, on analysera les projets de la région. Et il y aura une soirée débat avec Sylvie Bouchard de Pontoile, qui est présidente de CCFD Terre Solidaire. Le dimanche, ce sera la stratégie de marque, les orientations et le fonctionnement de la région, puis ensuite des élections. Je rappelle que mercredi 17 octobre aura lieu aussi la journée mondiale du refus de la misère et le rassemblement aura lieu au plan Cabane. Il est organisé par le collectif ATD Carmonde. Alors je rappelle bien sûr la conférence sur le Chili du lundi 15 octobre à l'espace Martin Luther King.
À midi.
À bientôt, chers auditeurs.